La guerre des Gaules, écrit par Jules César, traduit par Désiré Nissard. Livre 2, 57 avant Jésus-Christ. Agitation en Belgique. 1. Pendant que César était, comme nous l'avons dit, en quartier d'hiver dans la Gaule citérieure, les bruits publics lui apprirent et les lettres de Labienus lui confirmèrent que les Belges, formant, comme on a vu, la troisième partie de la Gaule, se liguaient contre le peuple romain et se donnaient mutuellement des otages. Cette coalition avait diverses causes. D'abord, ils craignaient qu'après avoir pacifié toute la Gaule, notre armée ne se portât sur leur territoire. En second lieu, ils étaient sollicités par un grand nombre de Gaulois, ceux qui n'avaient pas voulu supporter le séjour des Germains en Gaule, voyaient aussi avec peine l'armée des Romains hiverner dans le pays et y rester à demeure. D'autres, par inconstance et légèreté d'esprit, désiraient un changement de domination. Quelques-uns, enfin, les plus puissants et ceux qui, à l'aide de leur richesse, pouvaient soudoyer des hommes et s'emparaient ordinairement du pouvoir, prévoyaient que ces usurpations seraient moins faciles sous notre gouvernement. Mesures de César. 2. Inquiet de tous ces rapports, César leva deux nouvelles légions dans la Gaule citérieure et les envoya au commencement de l'été dans la Gaule intérieure, sous le commandement de Q. Pedius, son lieutenant. Lui-même rejoignit l'armée dès que les fourrages commencèrent à être abondants. Il chargea les Sénons et les autres Gaulois, voisins des Belges, d'observer ce qui se passait chez eux et de l'en instruire. Ils lui annoncèrent unanimement que ce peuple levait des troupes et qu'une armée se rassemblait. César alors n'hésite plus et fixe son départ au 12e jour. Après avoir pourvu aux vivres, il lève son camp et arrive en 15 jours à peu près aux frontières de la Belgique. Les Rèmes se déclarent pour les Romains. 3. Son arrivée fut imprévue et personne ne s'attendait à tant de célérité. Les Rèmes, voisins immédiats des Belges, lui députèrent Iccios et Andocumborios, les premiers de leur cité, chargés de lui dire qu'ils se mettaient eux et tout ce qu'ils possédaient sous la foi et pouvoir du peuple romain, qu'ils n'avaient point voulu se liguer avec les autres Belges, ni prendre part à cette conjuration contre les Romains, qu'ils étaient prêts à donner des otages, à faire ce qui leur serait ordonné, à le recevoir dans leur place, à lui fournir des vivres et tous autres secours, que tout le reste de la Belgique était en armes, que les Germains, habitant en deçà du Rhin, s'étaient joints aux Belges, et que telle était la fureur de cette multitude, qu'eux-mêmes, frères et alliés des Suessions, obéissant aux mêmes lois, ayant le même gouvernement et les mêmes magistrats, n'avaient pu les détourner d'entrer dans la Confédération. Dénombrement des forces ennemies. 4. César leur demanda quels étaient les peuples en armes, leur nombre et leurs forces militaires. Il apprit que la plupart des Belges étaient originaires de Germanie, qu'ayant anciennement passé le Rhin, ils s'étaient fixés en Belgique à cause de la fertilité du sol et en avaient chassé les Gaulois qui l'habitaient avant eux. Que seuls, du temps de nos pères, quand les Teutons et les Cimbres eurent ravagé toute la Gaule, ils les avaient empêchés d'entrer sur leur terre. Ce souvenir leur inspirait une haute opinion d'eux-mêmes et leur donnait de hautes prétentions militaires. Quant à leur nombre, les Rèmes avaient à ce sujet les données les plus certaines, en ce que, Unis avec eux par le voisinage et les alliances, ils connaissaient le contingent que, dans l'Assemblée générale des Belges, chaque peuple avait promis pour cette guerre. Les Bélovaques tenaient le premier rang parmi eux par leur courage, leur influence et leur population. Ils pouvaient mettre 100 000 hommes sous les armes. Ils en avaient promis 60 000 d'élite et demandaient la direction de toute la guerre. Les Suessiens, leurs voisins, possédaient un territoire très étendu et très fertile. Ils avaient eu pour roi de notre temps encore Divisiacos, le plus puissant chef de la Gaule, qui à une grande partie de ses régions joignait aussi l'empire de la Bretagne. Galba était maintenant leur roi, et le commandement lui avait été déféré d'un commun accord à cause de son équité et de sa sagesse. Il possédait 12 villes et avait promis 50 000 hommes. Autant en donnaient les Nerviens, réputés les plus barbares d'entre ces peuples et placés à l'extrémité de la Belgique. Les Atrébates en fournissaient 15 000, les Ambiens 10 000, les Morins 25 000, les Ménapes 9 000, les Calites 10 000, les Véliocas et les Viromandus le même nombre, les Atuatuques 19 000, les Condruses, les Éburons, les Caeroessies et les Pémanes, compris sous la dénomination commune de Germains, devaient en envoyer 40 000. Divisiacos attaque les Bélovaques. César franchit l'Aisne. 5. César encouragea les Rèmes par des paroles bienveillantes et exigea que leur sénat se rendît auprès de lui, et que les enfants des familles les plus distinguées lui fussent amenés en otage. Ce qui fut ponctuellement fait au jour indiqué. Il anime par de vives exhortations le zèle de l'éduin Divisiacos, et lui représente combien il importe à la République et au salut commun de diviser les forces de l'ennemi, afin de n'avoir pas une si grande multitude à combattre à la fois. Il suffit pour cela que les Éduins fassent entrer leurs troupes sur le territoire des Bélovaques et se mettent à le ravager. César fait partir Divisiacos avec cette commission. Dès qu'il apprit par ses éclaireurs et par les Rèmes que les Belges marchaient sur lui avec toutes leurs forces réunies et n'étaient déjà plus qu'à peu de distance, il se hâta de faire passer à son armée la rivière d'Aisne, qui est à l'extrême frontière des Rèmes, et assit son camp sur la rive. De cette manière, la rivière défendait un des côtés du camp. Ce qui était à la suite de l'armée se trouvait à l'abri des atteintes de l'ennemi, et le transport des vivres qu'envoyaient les Rèmes et les autres peuples pouvait s'effectuer sans péril. Sur cette rivière était un pont. Il y plaça une garde et laissa sur l'autre rive Q. Titurius Sabinus, son lieutenant, avec 6 cohortes. Il fit fortifier le camp d'un retranchement de 12 pieds de haut et d'un fossé de 18 pieds de profondeur. Il fait lever le siège de Bibrax. 6. À 8 000 pas de ce camp, était une ville des Rèmes appelée Bibrax. Les Belges, dans leur marche, l'attaquèrent vivement. Elle se défendit tout le jour avec peine. Leur manière de faire les sièges est semblable à celle des Gaulois. Lorsqu'ils ont entièrement entouré la place avec leurs troupes, ils lancent de tous côtés des pierres sur le rempart. Quand ils en ont écarté ceux qui le défendent, ils forment la tortue, s'approchent des portes et sapent la muraille. Cela était alors aisé, car cette grêle de pierres et de traits rendait toute résistance impossible du haut des remparts. Lorsque la nuit eut mis fin à l'attaque, le Rem Ikkyos, homme d'une haute naissance et d'un grand crédit, qui commandait alors dans la place, et un de ceux qui avaient été députés vers César pour traiter de la paix, lui dépêcha des courriers pour l'informer que s'il n'était promptement secouru, il ne pouvait tenir plus longtemps. 7. Vers le milieu de la nuit, César fit partir, sous la conduite des mêmes hommes que lui avait envoyé Ikkyos, des Numides, des archers crétois et des frondeurs baléares. Leur arrivée ranima l'espoir des assiégés, leur inspira l'ardeur de se défendre et enleva en même temps aux ennemis l'espérance de prendre la place. Ils restèrent quelque temps alentour, dévastèrent la campagne, brûlèrent les bourgs et les maisons qui se trouvaient sur leur route, se dirigèrent avec toutes leurs troupes vers le camp de César et placèrent le leur à moins de 2000 pas. On pouvait conjecturer, d'après les feux et la fumée, qu'il avait une étendue de plus de 8000 pas. Bataille de l'Aisne. 8. César résolut d'abord, à cause du grand nombre des ennemis et de la haute idée qu'il avait de leur courage, de différer la bataille. Chaque jour, cependant, par des combats de cavalerie, il éprouvait la valeur de l'ennemi et l'audace des siens. Quand il se fut assuré que les nôtres ne lui étaient point inférieurs, il marqua le champ de bataille, en avant du camp, dans une position naturellement avantageuse. La colline sur laquelle était placé le camp s'élevait insensiblement au-dessus de la plaine et offrait autant d'étendue qu'il en fallait pour y déployer les troupes. Elle s'abaissait à gauche et à droite et se relevait vers le centre par une légère éminence qui redescendait en pente douce vers la plaine. À l'un et l'autre côté de cette colline, César fit creuser un fossé transversal d'environ 400 pas. Aux deux extrémités, il éleva des forts et y plaça des machines de guerre, afin d'empêcher que des ennemis si supérieurs en nombre ne vinssent le prendre en flanc et l'envelopper pendant le combat. Cela fait, il laissa dans le camp les deux légions qu'il avait levées récemment pour servir aux besoins de réserve et rangea les 6 autres en bataille devant le camp. L'ennemi avait aussi fait sortir ses troupes et formé ses lignes. 9. Il y avait un marais peu étendu entre notre armée et celle des ennemis. Ils attendaient que les nôtres le traversassent. Nos troupes, de leur côté, sous les armes, se tenaient prêtes à attaquer les Belges, s'ils s'engageaient les premiers dans le passage. Cependant, la cavalerie engageait le combat de part et d'autre. Aucun des deux partis ne voulant passer le premier, César, après le succès d'une charge de cavalerie, fit rentrer ses légions dans le camp. Aussitôt, les ennemis se dirigèrent vers la rivière d'Aisne, qui était, comme nous l'avons dit, derrière nous. Ayant trouvé des endroits guéables, ils essayèrent d'y faire passer une partie de leurs troupes, dans le dessein, soit de prendre, s'ils le pouvaient, le fort commandé par le lieutenant Q. Titurius et de rompre le pont, soit, s'ils n'y réussissaient pas, de ravager le territoire des Rèmes, qui nous était d'une grande ressource dans cette guerre, et d'intercepter nos convois. 10. César, averti par Titurius, passa le pont avec toute sa cavalerie, ses Numides armés à la légère, ses frondeurs, ses archers, et marcha à l'ennemi. Alors s'engagea un combat opiniâtre. Les nôtres, ayant attaqué les Belges dans les embarras du passage, en tuèrent un grand nombre. Les autres, pleins d'audace, s'efforçaient de passer sur le corps de leurs compagnons. Une grêle de traits les repoussa. ceux qui avaient les premiers traversé l'Aisne furent enveloppés et taillés en pièces par la cavalerie. Les ennemis, se voyant déchus de l'espoir d'emporter le fort et de traverser la rivière, ne pouvant nous attirer pour combattre sur un terrain désavantageux, et les vivres commençant à leur manquer, tinrent conseil et arrêtèrent que ce qu'il y avait de mieux était de retourner chacun dans son pays et de se tenir prêt à marcher tous à la défense du premier que l'armée romaine envahirait. Ils combattraient avec plus d'avantages sur leur propre territoire que sur des terres étrangères, et les vivres chez eux leur seraient assurés. Celui de leur motif qui eut le plus de poids pour cette détermination, ce fut la nouvelle que Diviciacos et les Éduens approchaient des frontières des Bellovaques. On ne put persuader à ces derniers de rester plus longtemps, ni les empêcher d'aller défendre leurs biens. 11. Le départ étant résolu, dès la seconde veille, ils sortirent de leur camp à grand bruit, en tumulte, sans ordre fixe, sans être commandés par personne, prenant chacun le premier chemin qui s'offrait, et se hâtant de gagner leur pays, ce qui faisait ressembler ce départ à une fuite. César, aussitôt averti par ses vedettes, mais craignant une embuscade, dans l'ignorance où il était encore de la cause de cette retraite, retint son armée dans le camp même de sa cavalerie. Au point du jour, ce départ lui ayant été confirmé par ses éclaireurs, il détacha toute sa cavalerie pour arrêter l'arrière-garde. Il en confia le commandement à Q. Pedius et à Aurunculeius Cotta, ses lieutenants. T. Labienus, un autre de ses lieutenants, eut ordre de les suivre avec 3 légions. Ils atteignirent l'arrière-garde ennemie, la poursuivirent pendant plusieurs milles, et on avait tué un grand nombre de ces fuyards, lorsque les derniers rangs auxquels nous étions arrivés firent halte et soutinrent notre choc avec beaucoup de vigueur. Mais ceux qui étaient en avant, se voyant éloignés du péril et n'étant retenus ni par la nécessité de se défendre, ni par les ordres d'aucun chef, eurent à peine entendu les cris des combattants qu'ils rompirent leur rang et cherchèrent tous leur salut dans la fuite. Ainsi, sans courir aucun danger, les nôtres tuèrent à l'ennemi autant d'hommes que le permit la durée du jour. Au coucher du soleil, ils cessèrent la poursuite et rentrèrent au camp, comme il leur avait été ordonné. Les Suessiens, les Bellovaques, les Ambiens se soumettent. César passe chez les Nerviens. 12. Le lendemain, César, avant que l'ennemi se fût rallié et remis de sa terreur, dirigea son armée vers le pays des Suessiens, contigu à celui des Rèmes, et, après une longue marche, arriva devant la ville de Noviodunum. Il essaya de l'emporter d'assaut sur ce qu'il avait appris qu'elle manquait de garnison. Mais la largeur des fossés, la hauteur de ses murs défendus par un petit nombre d'hommes, l'empêchèrent de s'en rendre maître. Il retrancha son camp et se mit à faire des mantelets et à disposer tout ce qui était nécessaire pour le siège. Pendant ces préparatifs, tous ceux des Suessiens qui avaient échappé à la défaite entrèrent la nuit suivante dans la place. On pousse aussitôt les mantelets contre les murs, on élève la terrasse, on établit les tours. Les Gaulois, effrayés de la grandeur de ces travaux qu'ils n'avaient jamais vus, dont ils n'avaient jamais entendu parler, et de la promptitude des Romains à les exécuter, envoient des députés à César pour traiter de leur reddition, et sur la prière des Rèmes, ils obtiennent la vie sauve. 13. César reçut pour otages les principaux de la ville, les deux fils du roi Galba lui-même, se fit livrer toutes les armes de la place, accepta la soumission des Suessiens et marcha avec son armée contre les Bellovaques. Ils s'étaient renfermés avec tous leurs biens dans la place de Bratuspantium. Lorsque César et son armée en furent à 5000 environ, tous les vieillards sortant de la ville vinrent lui tendre les mains et lui annoncer qu'ils se mettaient sous sa protection et sous sa puissance, et qu'ils ne voulaient point prendre les armes contre le peuple romain. Comme ils s'étaient approchés de la place et s'occupaient à établir son camp, les enfants et les femmes tendaient aussi les mains du haut des murs, selon leur manière de supplier, et nous demandaient la paix. 14. Divisiacus intercéda pour eux, car depuis la retraite des Belges, il avait renvoyé les troupes éduennes et était revenu auprès de César. De tout temps, dit-il, les Bellovaques ont joui de la confiance et de l'amitié des Éduens. Entraînés par des chefs qui leur disaient que les Éduens, réduits par César à la condition d'esclaves, avaient à souffrir toutes sortes d'indignités et d'outrages, ils se sont détachés de ce peuple et ont pris les armes contre les Romains. Les auteurs de ces conseils, voyant quelles calamités ils avaient à tirer sur leur pays, viennent de s'enfuir en Bretagne. Ce ne sont pas seulement les Bellovaques qui le prient. Les Éduens eux-mêmes réclament pour eux sa clémence et sa douceur. S'il se rend à leur prière, il augmentera le crédit des Éduens auprès de tous les Belges, qui leur prêtent ordinairement des secours et leur appui quand ils ont quelque guerre à soutenir. 15. César répondit qu'en considération de Divisiacus et des Éduens, il acceptait la soumission des Bellovaques et leur accordait la vie. Mais comme cette cité était une des premières de la Belgique par son importance et sa population, il demanda 600 otages. Quand ils eurent été livrés, ainsi que toutes les armes trouvées dans la ville, il marcha contre les Ambiens, qui mirent aussitôt leurs personnes et leurs biens à sa discrétion. Au territoire de ces derniers touchait celui des Nerviens. César s'informa du caractère et des mœurs de ce peuple, et apprit que chez eux tout accès était interdit aux marchands étrangers, qu'ils proscrivaient l'usage du vin et des autres superfluités, les regardant comme propres à énerver leurs âmes et à amollir le courage, que c'étaient des hommes barbares et intrépides, qu'ils accusaient amèrement les autres Belges de s'être donnés au peuple romain et d'avoir dégénéré de la valeur de leur père, qu'ils avaient résolu de n'envoyer aucun député et de n'accepter aucune proposition de paix. Bataille de la Sambre. 16. Après 3 jours de marche sur leur territoire, César apprit de ses prisonniers que la Sambre n'était pas à plus de 10 000 de son camp, que les Nerviens étaient postés de l'autre côté de cette rivière et y attendaient l'arrivée des Romains. Ils étaient réunis aux Atrébates et aux Viromandus, leurs voisins, auxquels ils avaient persuadé de partager les chances de cette guerre. Ils attendaient encore des Atuatuques, déjà en route, un renfort de troupes. Les femmes et tous ceux que leur âge rendait inutiles pour le combat avaient été rassemblés dans un lieu dont les marais défendaient l'accès à une armée. 17. Sur cet avis, César envoya des éclaireurs et des centurions pour choisir un emplacement propre à un camp. Un certain nombre de Belges et d'autres Gaulois, récemment soumis, le suivaient et faisaient route avec lui. Quelques-uns d'entre eux, comme on le sut depuis par les prisonniers, ayant observé attentivement, dans ces derniers jours, la marche habituelle de notre armée, se rendirent de nuit auprès des Nerviens et les informèrent qu'entre chacune des légions, il y avait une grande quantité de bagages, qu'il serait aisé d'attaquer la première au moment où elle entrerait dans le camp, séparée des autres par un grand espace et embarrassée dans ses équipages. Que cette légion, une fois repoussée et ses bagages pillés, les autres n'oseraient faire résistance. Un tel avis donné aux Nerviens pouvait leur servir beaucoup, en ce que, de tout temps, très faible en cavalerie, car aujourd'hui même, ils négligent cette partie, et toute leur force ne consiste que dans l'infanterie. Ils ont eu l'habitude, pour arrêter plus facilement la cavalerie des peuples voisins, dans le cas où le désir du pillage l'attirerait sur leur territoire, de tailler et de courber de jeunes arbres, dont les branches, horizontalement dirigées et entrelacées de ronces et d'épines, forment des haies semblables à un mur et qui leur servent de retranchement, à travers lesquels on ne peut ni pénétrer ni même voir. Comme ces dispositions entravaient la marche de notre armée, les Nerviens crurent devoir profiter de l'avis qu'on leur donnait. 18. Voici la nature de l'emplacement que les nôtres avaient choisi pour le camp. C'était une colline qui, depuis son sommet, s'abaissait insensiblement vers la Sambre, rivière que nous avons nommée plus haut. Il s'en élevait une autre d'une pente également douce vis-à-vis de celle-là, et sur le bord opposé, à 200 pas environ. La partie inférieure en était découverte et la cime assez boisée pour que la vue ne pût y pénétrer. L'ennemi se tenait caché dans ce bois. Dans la partie découverte, le long de la rivière, se voyaient quelques postes de cavalerie. Cette rivière avait une profondeur d'à peu près 3 pieds. Fin de la première partie de 2 du deuxième livre de la guerre des Gaules.